Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Aujourd'hui, on est au studio avec Corentin, Juliette et Aubry, et on va parler de trois films dans des genres qui sont assez peu présents ou présentés à cette tribune, soit le documentaire et l'animation. Car on parle aujourd'hui en effet de La Vie d'après, de Béatrice Vallès et Olivier Lamour, de Planète, de Momoko Seto, et enfin du dernier film de Mamoru Hosoda, Scarlett et l'Éternité. Les deux premiers films ont été l'occasion d'une rencontre au Comédia avec leurs réalisateurs et réalisatrices. Le troisième, est en salle depuis 2 semaines et démarre assez péniblement. On verra s'il y a des raisons de s'en réjouir ou pas. J'espère que, bref, tous les trois, vous allez bien. C'est parti pour le 72e. Épisode du Comptoir du Cinéma. En Algérie, une veuve dont le mari a été tué lors d'un attentat terroriste doit fuir son village avec son fils pour échapper aux rumeurs et au harcèlement des habitants. Finalement, lorsqu'ils parviennent à s'installer, leur vie prend un tour dramatique. C'est le film algérien La Vie d'après de 2021, réalisé par Anis Djad. Bon, alors Aubry, Corentin, je vous laisse présenter La Vie d'après version 2026, qui me semble en fait n'a pas grand chose à voir avec cette histoire.
Il me semble que, enfin, moi j'avais pas tellement saisi que ça se passait en Algérie personnellement. Alors j'ai en effet pu lire sur le synopsis que il y a une confrontation à la précarité, pas tellement, hein, puisque il plutôt bien loti, monsieur le président, entre les séjours parisiens et les permanences corréziennes du PS sous saucisson et sous bière. On parle de désir et de violence. Là, je vois peut-être un peu plus le sens, surtout en termes de violence. C'est vrai qu'il y a une certaine mise en scène de la violence sur la fin, qui serait celle d'une sorte de bordélisation, en fait, on va le dire, de la part d'une certaine gauche, et qui se situe en fait dans la droite ligne d'un discours médiatique. Donc moi, ce film, je sais pas ce que tu as à en dire, Aubry. En fait, je sais très bien ce que tu as à en dire, Aubry. Nous en avons très peu de choses.
Oui, parce qu'on a longuement discuté pour pas grand chose. non, en fait, il se trouve que le film est assez vide dans le sens où, ça suit vraiment le quotidien de François Hollande, mais tout ce qui n'est pas intéressant dans le quotidien de François Hollande, c'est-à-dire juste des moments de politique, alors qu'il n'arrête pas de dire qu'il ne fait plus de politique. Donc à un moment, ça commence à faire beaucoup, à partir de la 150e fois où il nous dit qu'il n'est pas candidat, pour que le film se termine par François Hollande a été élu à l'occasion de l'élection législative post-dissolution. Non, c'est surtout en fait que genre, non seulement ça raconte pas forcément grand-chose d'intéressant en soi, parce qu'effectivement c'est une suite de cases cochées, on va dire des permanences du PS, aux dédicaces de livres, en passant par les rendez-vous avec les grands pontes de la gauche qui d'ailleurs... Salut l'artiste.
Salut mon pote. Cet épisode est dédié à
Lionel Jospin, exactement.
Qui est décédé aujourd'hui.
Mais le problème c'est que dans la forme en fait le film n'est pas intéressant non plus, c'est... Il n'y a pas vraiment d'effort ou d'intérêt pour le cadre, on a l'impression. C'est assez quelconque. Et en fait, du coup, ça rend le truc assez chiant à suivre, on ne va pas se mentir. Parce qu'on a l'impression que... Enfin, de voir en fait les backstage de BFM TV ou... un espèce de vidéo-reporter qui aurait des autorisations en plus. Du coup, on pourrait s'attendre à la vie d'après, mais en fait, on n'a que l'après, on n'a pas forcément la vie. On n'a pas forcément tout le quotidien dont je suis même pas sûr qu'il pourrait nous intéresser au final. c'est pas si intéressant que ça, quoi. Même, on en discutait, vous le retrouverez dans le, dans l'interview, mais on a discuté avec le réalisateur qui vient quand même de la série Striptease. En fait, on n'en voit pas forcément tant de traces que ça dans le film, donc bon. Oui. C'est, voilà, on n'est pas si loin du clip de campagne, en fait, pendant une heure et demie.
Ouais, moi je trouve que c'est un film qui ne s'émancipe pas tant du discours médiatique puisqu'il embrasse un point de vue, celui de François Hollande, auquel on n'oppose aucune contradiction. Et c'est bien dommage parce que Olivier Lamour le dit pourtant dans l'entretien que nous avons pu avoir avec lui et François Hollande. Il explique qu'au commencement du projet, il n'avait pas forcément les mêmes vues que Béatrice Vallès, qui est la journaliste de Libération, donc décédée depuis en 2022. Béatrice Vallès, elle voulait un film beaucoup plus centré sur la politique internationale. Voilà, apparemment, c'était ce qui l'a passionné. Et c'est déjà assez étrange, enfin, ça me semble déjà assez étrange, parce que, bon, le président n'est pas le chef voilà, du gouvernement. Le président, voilà, en matière de politique internationale, c'est là qu'il est mis en avant. Voilà, voilà, il est censé avoir un rôle premier.
Et on ne voit pas de politique internationale
de représentation,
dans le film.
Hein. Et finalement, ils ont abandonné cette idée. Mmh. Mais je trouvais que l'idée de départ de mettre en avant, du coup, une chose comme la politique internationale dans la vie d'après, donc c'est-à-dire dans un moment où en fait il perd toute fonction politique, c'est-à-dire que justement tout ce qui est politique internationale devient assez anecdotique pour quelqu'un comme lui, quasi anecdotique du moins, ou aussi anecdotique que n'importe quel personnage politique ou non politique sans fonction apparente, quoi. Et donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que Olivier Lamour, lui, a précisé au contraire dans l'entretien qu'il voulait au début plus de contradictions, qu'il désirait plus de contradictions, plus de journalisme, selon ses propres termes, ou du moins selon sa propre formation. Et malheureusement, il n'a vraisemblablement pas pu imposer ses méthodes, ou alors il s'est lui-même résigné parce que il a, comme on va dire, et c'est bien triste, troqué ce genre de projet qui pourrait rappeler celui des documentaires à la De Pardon, voilà, 74, une partie de campagne, ou Primary de Leacock et Drew. Donc il a troqué ce genre de projet qui peuvent être intéressants. Voilà, c'était des projets qui se situaient en plein cœur d'une campagne. Là, c'est une sorte de vide après, donc un vide, mais un vide qui on l'imagine prépare une campagne, et un vide qui ressemble bien plus du coup à une sorte voilà, d'agiographie post-présidentielle.
Pardon. Bah ça, c'est qu'en fait le vide on le voit jamais, c'est-à-dire que c'est une machine qui continue de tourner sans s'arrêter, et en fait bon, on voudrait nous montrer ce qu'est devenu François Hollande après la présidence, alors qu'en fait il est resté le symbole qu'il était devenu en étant président, et en fait ça reste juste une image, c'est-à-dire que c'est le type, effectivement les gens vont faire dédicacer ses bouquins, les gens, même on le voit quand il fait les marchés et tout, continuent de voter pour lui même quand il n'est pas candidat et que c'est quelqu'un d'autre qui est candidat, et ils sont là, ils sont en mode oui mais quand même c'est vous qu'on connaît, c'est vous qu'on soutient, et lui il est en mode mais moi je suis pas candidat, à d'autres, mais... Mais donc il y a ce truc-là de, bah, en fait, le vide, il peut jamais être montré, parce que le mec, il est tout le temps en train de faire des trucs, et il est tout le temps d'auto-entretenir son propre symbole. Et du coup, en fait, le vide, il est pas tellement dans la vie d'après dont on voudrait nous parler, que dans ce qu'on nous montre au final, c'est-à-dire bah, vraiment un truc qui se répète, qui s'arrête jamais, jusqu'à ce que ça reparte, effectivement, parce qu'à la fin du film, bah, juste, enfin, même si c'est dans un petit carton... expédié avant le générique, mais on nous dit qu'il est réélu, quoi. Et donc ouais, il y a un truc entre, enfin qui est pas loin de la géographie, parce qu'en fait au final on est laissé que avec ce symbole là. Il n'y a pas vraiment de remise en question critique, on va pas se mentir, sauf à la toute fin, mais ça, surprise pour ceux qui verront le film. Non, il se fait juste alpaguer sur un marché, mais ouais, du coup c'est un peu barbant, quoi.
Oui, enfin ils auraient pu quand même et vraiment pour terminer, ils auraient pu quand même assumer le vide, c'est-à-dire que dans ce film ils assument pas le vide et on se fait chier. Ils auraient pu assumer le vide et on se serait fait chier, mais au moins on se serait fait chier pour quelque chose.
Oui, c'est ça, voilà.
Eh ben, merci beaucoup sur cette belle conclusion, hein, Aubry et Corentin. Sans plus attendre, on écoute, enfin c'est comme vous voulez, hein. François Hollande et Olivier Lamour sur Transistor, enregistré au Comédia le 26 février 2026. Et puis nous, bah, on va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission.
C'est un film qui avait été souhaité par Béatrice Vallès, qui était une journaliste, qui était venue me voir en 2019 pour suivre ce qu'était la vie d'un ancien président. C'est ça qui l'intéressait, ce qu'on fait quand on n'est plus à l'Élysée. Et puis ce film qui aurait dû être tourné en un an, peut-être, deux ans, a duré finalement plus longtemps à cause du Covid, à cause aussi des événements qui ont pu intervenir. Et puis, à la fin, il s'est terminé à la fois, parce que c'était le moment où il devait se terminer, mais aussi avec la mort de Béatrice Vallès. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Olivier, qui avait filmé la totalité des épisodes, des événements qui auraient pu intéresser la construction du film, avec le fils de Béatrice Vallès, a repris et a fait ce montage. C'est peut-être pas le film qu'aurait fait Béatrice Vallès, c'est possible qu'elle en aurait fait un autre, mais enfin, elle se serait sans doute moins montrée à l'écran.
Je crois, oui.
Et Olivier et le fils de Béatrice ont considéré que non, c'était un film qui était de Béatrice Vallès, avec Béatrice Vallès. Moi, je n'étais qu'un figurant dans le film qui passait par là, et donc vous avez vu ce qu'était la vie d'un ancien président. Ça s'arrête en 2022. Si Béatrice était encore en vie, je pense qu'elle aurait continué à tourner jusqu'en aujourd'hui, parce qu'elle espérait qu'il se passe quelque chose, toujours qu'il se passe quelque chose. Et il se passe toujours quelque chose, c'est vrai. Et il se termine avec la campagne des législatives de 2022, où, bien sûr, je n'étais pas présent. Et finalement, deux ans après, j'étais à peu près dans le même endroit où le film se termine, candidat pour les élections législatives. Parce que c'est toujours frustrant, les films sur les présidents à l'Élysée, parce qu'on ne voit rien. Bon. Là, il avait la possibilité de suivre ce qu'était la vie d'un ancien président. Enfin, en tout cas, la mienne. Parce qu'il y a des vies d'anciens présidents qui ne sont pas tout à fait celles-là. Donc, à la fois tourner pour une dédicace d'un livre, tourner pour des campagnes électorales, tourner pour rencontrer des Français, les invitations à des cérémonies, donc c'est tout ça le film.
Et non, effectivement, c'est bon, tous les documentaires qu'on peut faire, moi j'en ai fait pas mal, c'est toujours des aventures singulières. Celle-là est parmi les plus singulières que j'ai faites, je dois dire. Parce qu'en fait, on est parti sans bien savoir ce qu'on faisait. On a cherché pendant très longtemps à trouver ce qu'on faisait. C'était vraiment un travail de chercheur, parce que effectivement, c'était un sacré pari. C'est-à-dire, moi, mon premier projet de film dans la vie, ça s'appelait « Il ne se passe rien l'hiver à Palavas-les-Flots ». Mais donc, j'ai toujours eu un goût pour justement filmer dans les creux. Quand on est documentariste, quand on fait des reportages, il vaut mieux aller chez les pompiers ou à l'hôpital, où il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un enjeu dramatique. Avec un homme politique, il vaut mieux être en campagne. Il y a beaucoup de films qui ont été faits en campagne. Il vaut mieux être au pouvoir. Ça, c'est pas mal aussi, parce que il se passe des choses tous les jours. Il y a des décisions à prendre. C'est vrai que avec Béatrice, on était parti sur... D'ailleurs, j'ai vu que le film avait été fait sur la politique étrangère. Oui. On était plutôt parti là-dessus parce que Béatrice était passionnée par la politique étrangère. Et puis, petit à petit, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'effectivement, moi, il y avait quelque chose quand même que je trouve fascinant, c'est que vous êtes président de la République. Vous savez que ça va... Le temps est compté, mais un jour, ça s'arrête. Et vous passez le tapis rouge, vous passez le porche de l'Élysée. Avant, vous êtes le président de la République... avec tout ce que la République peut mettre à votre disposition pour exercer le pouvoir, vous passez ce porche, et puis ça s'arrête. Et ce passage-là, je trouvais qu'humainement, c'est quelque chose que peu d'hommes vivent. Bon, on le vit à d'autres échelles, quand on quitte un boulot, mais à cette échelle-là, c'est quand même extraordinaire. Et on avait la possibilité d'accompagner ce moment-là, et donc de faire... ce que Béatrice, dans le film, nomme « Traversée du désert », vous-même, vous aviez dit, c'est un peu le désert des Tartares. Tout est à inventer. Et donc, c'était vraiment très intéressant d'imaginer qu'on allait faire ça.
Oui, oui, c'est très actif, parce qu'il y a des invitations, il y a des décorations, il y a des cérémonies. Mais ça peut être aussi, comme il est dit, le vide absolu. on peut très bien considérer que c'est terminé. Il y a eu des anciens présidents qui ont, après l'Élysée, ont une vie assez courte, François Mitterrand. Une vie un peu plus longue, Jacques Chirac, mais avec la maladie. Et donc, et puis il y a eu Nicolas Sarkozy qui a fait une toute autre vie, je ne vais pas ici la commenter.
Ou Lionel Jospin qui a carrément quitté la politique.
Alors lui, Jospin qui n'a pas été président, qui a totalement quitté la politique, tout en cherchant peut-être un moment à y revenir, toujours cette tentation. Et puis, je ne sais pas ce que fera Macron après, mais il faut qu'il s'y prépare, il faut qu'il regarde le film pour savoir exactement ce qui va se passer. D'abord montrer qu'il y a une vie après. Quel que soit l'âge, mais en l'occurrence, c'est vrai que les présidents peuvent être élus jeunes ou enfin pas trop vieux. Et donc, il y a une vie et qu'il y a un mouvement. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'il y avait un engagement qui ne disparaissait pas. On n'est pas président sans avoir eu un engagement. Enfin, c'est généralement le cas. Et une fois qu'on n'est plus président, on a quand même le même engagement. Ce que je voulais montrer, c'est que les convictions, ça ne disparaît pas avec les fonctions. Et au prétexte qu'on est plus dans la fonction, on n'aurait plus de volonté d'expliquer, de transformer, de convaincre. Donc c'est ça que je voulais que le film puisse montrer. C'était que j'étais toujours, finalement, en campagne. Et on est en campagne pour conquérir le pouvoir, mais on est en campagne quand on est au pouvoir, parce qu'il faut essayer de justifier ce qu'on fait. Mais on est en campagne. Enfin, moi, je me considère en campagne, même après. Mais une campagne, pour quoi faire ? Peut-être pour rien, c'est pas le problème, mais en campagne pour essayer de défendre mes idées. Olivier me mettait toujours un micro sur le veston. C'est pas lui qui me trahissait, le micro aurait pu me trahir. Bon, on dit des choses dans un... et puis à un moment on peut s'échapper et des paroles peuvent être prononcées, donc faut toujours faire attention. Mais il y a une grande différence. Quand on est au pouvoir, toute parole est interprétée, diffusée, exploitée. Donc dans le livre de Davelhomme, qui est un bon livre d'ailleurs, hein, dont je ne renie pas la restitution qu'ils ont pu faire des entretiens qu'on a eus, mais 3-4 phrases avaient été tirées, y compris le titre d'une certaine façon. Un président ne devrait pas dire ça, déjà ça faisait l'impression qu'on était un peu à côté. Donc il y a toujours des phrases qui peuvent être tirées. Elles ne sont pas graves. Il y en a sans doute là dans le film des phrases qui peuvent être interprétées. Mais quand on n'est pas au pouvoir, elles n'ont pas la même portée, le même impact et ne sont pas faites de la même instrumentalisation quand ça peut être la volonté d'un certain nombre. Donc là, j'étais plutôt en confiance. J'étais plutôt en confiance. Parce que la situation me permettait de l'être. Je n'ai pas du tout eu à fixer moi-même ce que je voulais mettre dans le film ou pas. Ou je n'ai pas dit, tiens, cette phrase-là, je voudrais qu'elle soit retirée. D'ailleurs, je ne l'avais pas fait non plus pour Davelhomme, qui ne m'ont pas soumis. Là. Peut-être que s'ils me l'avaient soumis, j'aurais retiré 3-4 phrases.
Le risque d'un film pareil, c'est de faire un peu une séquence après l'autre. Effectivement, les choses sont, on est toujours appelé dans des moments où finalement vous-même et votre cabinet estiment que ça va être intéressant de se montrer à ce moment-là, et donc le risque c'est de faire un peu du sauf votre respect un truc monsieur le maire quoi, un truc, un bulletin municipal avec la photo du maire à toutes les pages, enfin un puzzle de moments intéressants mais qui n'aurait pas raconté grand chose. Il se trouve que Béatrice et vous-même avez cette relation de confiance de confiance ancienne et qui permettait de faire ces entretiens. Et donc c'est vrai qu'entre les moments où vous êtes en campagne, comme vous le dites, où vous partez voir des gens, rencontrer le pays, et ces moments d'interview qui sont... Alors c'est des interviews, Béatrice, elle a été directrice de rédaction de Libé, elle a été une des fondatrices de Libé, et ces méthodes d'interview, c'est pléthorique, c'est-à-dire elle avait des carnets avec des pages, ça part dans tous les sens, la conversation va, vient, et donc au montage, on a resserré ça, et on s'aperçoit que elle allait à l'essentiel par des chemins de conversation. Et ce que j'aime bien dans le film, c'est justement d'avoir pu montrer ce passage de la parole privée, badine, au moment où on parle sérieusement, où on commence l'interview. Et je trouve que ici, on s'approche de quelque chose qui n'est pas de l'intimité, mais qui est un peu une vérité, c'est-à-dire on montre un aspect qui est plus humain, d'une certaine manière.
Le tour pourrait être une forme de familiarité excessive, presque forcée, et peut-être aussi un manque de respect à l'égard du citoyen ou du citoyen à mon égard. Je tutoie quand je pense qu'on peut être dans une relation de confiance et d'égalité. Alors, comme président, je ne suis pas sûr que je me faisais tutoyer. Hein, c'est peut-être la différence quand même entre un président et un ancien président. Un président, il faut qu'il soit... ça fait partie de la fonction. Il faut qu'il se fasse respecter. C'est déjà pas facile. Hein. Et il faut lui aussi qu'il montre qu'il est dans une démarche d'autorité. L'autorité, c'est très important. Notamment dans les moments les plus chauds d'une actualité. On pense à ce qui s'est passé notamment en 2015. En revanche, quand je ne suis plus président, comme je vous l'ai dit, je retrouve la position qui était la mienne avant d'être président, donc une forme de recherche de conviction, d'engagement. J'ai longtemps été quand même premier secrétaire du Parti Socialiste, donc où le tutoiement était plutôt la règle. La vie d'après ne peut plus être la vie d'avant. Il y a beaucoup de gens qui ont une vie d'avant et qui n'auront jamais une vie de président. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats, si vous voulez. En revanche, il y a assez peu d'anciens présidents. Bon, je dis aujourd'hui, on n'est que deux. Et c'est ça qui intéresse, et c'est ça qui peut intéresser les spectateurs. Se dire, ah ben, c'est comment la vie d'un ancien président par rapport à ce qu'a été sa vie de président. Et alors, pour répondre, je termine là-dessus, c'est que devenant président, et donc forcément, ça ne peut pas durer, donc ancien président, on n'a plus le même. On a vécu des événements, pris des décisions qui font qu'au-delà de l'expérience que l'on peut revendiquer, qui font qu'on a été quand même modifié par la fonction. On en ressort pas simplement avec des cicatrices et un certain nombre de souvenirs douloureux ou heureux, on en ressort changé quand même à travers des décisions qu'on a pu prendre. Moi j'ai été très longtemps député avant d'être président, j'étais maire, etc. Et c'était assez simple, le rapport avec les citoyens, j'allais sur un marché, dans les rues, on me disait ce qu'on pensait de moi. Devenant président, c'est très difficile d'avoir une relation simple avec les citoyens. D'une part parce qu'il y a une protection, d'autre part parce qu'il y a les journalistes qui sont là, qui entourent. N'étant plus président, devenant ancien président, les rapports sont plus simples,
plus directs.
Ce qui n'empêche pas quelquefois de se faire admonester, interpeller, etc. Mais c'est plus direct. C'est peut-être la fonction présidentielle en France qui fait cet éloignement. Dans les fonctions gouvernementales, parlementaires, les premiers ministres, ils vont à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des députés ou au Parlement de leur pays. Et deuxièmement, ils vont encore dans leur circonscription. Un Premier ministre va dans sa circonscription. Un président, moi j'étais très lié à ma circonscription, enfin j'allais pas retourner toutes les semaines en Corrèze pour faire le marché. Les gens auraient dit, c'est quand même bizarre. L'éloignement. Alors j'avais par exemple pris une décision en disant, quand j'étais député, quand j'étais maire, je faisais des permanences. Donc j'ai dit, je vais aller demander au service du courrier de me trouver les lettres de gens qui protestent, qui contestent. On en recevait beaucoup, hein, quand même, de ce modèle-là. Et je vais en sélectionner 5, 10, et je vais les inviter à l'Élysée pour qu'ils me parlent. Et donc, on les a invités, successivement. Ils ont exposé un problème, mais ils étaient tellement impressionnés par le cadre, c'est vrai, et par le lieu, par le bureau. En réalité, il n'était pas dans une relation simple, directe, franche. Donc, c'est très difficile. Et c'est ce qui explique l'éloignement, l'enfermement, dont on dit souvent qu'il est le lot des présidents de la République. J'ai retrouvé un film, par exemple, enfin pas un film, c'était un reportage sur Pompidou, qui arrivait à l'Élysée, qui au bout de... Donc c'était Pierre Desgroupes, ça vous dira peut-être quelque chose, qui l'interrogeait. Et il dit, voilà, je ne peux plus sortir, je ne peux plus faire des courses. Et c'était en 69-70.
Il
n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les caméras. Il y avait les caméras, mais ce n'était pas la même chose. Bah, c'est vrai, on ne peut plus faire ses courses. Quand on sort de l'Élysée, précisément, ça fait partie de la vie d'après. Écrire un livre sur ce qu'on a fait, ses mémoires, etc. Un document cinématographique, c'est assez rare, oui, ça c'est vrai. Je ne pense pas que ça ait été déjà fait. Et moi, je crois beaucoup à l'image. On a parlé tout à l'heure des films de Depardon sur une campagne. C'était celle de Giscard, où ça a été sur Chirac à un moment. Je crois au cinéma, c'est-à-dire qui n'est pas une fiction, qui est un documentaire. La fiction aussi existe. J'ai été représenté plusieurs fois au cinéma. Mais c'est assez artificiel. Donc je pense que c'est mieux de faire un document et qu'il y ait une trace. L'image, c'est quand même pour beaucoup une façon de comprendre la politique. Pour des gens qui ne liront pas forcément un livre. J'avais annoncé que je n'étais pas candidat le 1er décembre 2016. J'ai eu raison et j'ai eu tort, c'est une autre affaire. Mais donc je savais que. Ce qui m'attendait. Alors, donc, je m'étais préparé psychologiquement, je m'étais préparé politiquement, mais ce que disait Olivier très juste, à 10h58, je peux décider, comme président de la République, encore, à 10h59, je suis dans une position un peu intermédiaire, et à 11h, c'est terminé. Et ça, je pense que c'est si on ne s'y est pas préparé, quelle que soit la durée du mandat, ça peut être un problème psychologique. Giscard d'Estaing a évoqué ça dans ses mémoires, combien ça avait été douloureux. Pour d'autres, moins, parce qu'ils étaient, pour Mitterrand, ils savaient que c'était le terme de sa vie politique et le terme de sa vie physique, de sa vie réelle. Oui, il faut s'y préparer.
C'était incertain comme projet. C'est souvent incertain le documentaire, mais là, c'était. Là, moi, j'étais pendant très longtemps pas sûr du tout de tenir quelque chose, d'avoir un film, d'avoir. Parce que ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on avait juste une juxtaposition de moments comme ça, d'intervention qui n'amenait nulle part en fait. Il y avait rien qui tendait le récit. Donc moi j'avais quand même assez vite dans l'idée que c'était un quinquennat d'après et que c'était ça l'unité de temps qui devait quitter. Et puis il se trouve que Béatrice est morte. Vraiment juste après les présidentielles, il y a eu les législatives et elle est morte tout de suite après. Mais vraiment. Et quand elle est. Ce qui était convenu entre nous, c'est moi je ne suis pas opérateur, je suis réalisateur, mais là c'est moi qui ai filmé, donc avec une toute petite caméra. D'ailleurs, le film est un miracle technologique parce que projeter ce que j'ai fabriqué sur des écrans pareils, avec un son pareil, enfin. Ça a été génial du point de vue de la production. On a joui de moyens vraiment. Pas très coûteux, mais magnifique. Ouais. Quand Béatrice est morte, elle devait normalement lire les rushs, puisque moi j'avais filmé. On s'était convenu que elle dérushait. Donc elle se tapait les 108 heures de rush. Bon. Et quand elle est morte, je me suis retrouvé avec ça. Et au fond, pour moi, le film. Enfin, avec elle, j'enterrais un peu le film, quoi. C'était et en fait, son fils fait une école de cinéma à Lodz, en Pologne. Je l'avais jamais rencontré, et donc spontanément, j'ai dit, il faut quelqu'un pour la représenter, parce qu'en plus, moi, je l'avais filmé elle. En fait, il y avait plein de moments où, voilà, c'était un peu institutionnel, quoi. Et puis, elle était belge. Moi, j'ai fait striptease beaucoup, donc. J'ai une espèce de prisme belge et tout ça, et elle est franchement amusante, quoi. Dans le film, on la voit, c'est un personnage invraisemblable. Et le contraste, on cherche toujours du contraste quand on tourne, contraste entre des situations, et puis des interactions, parce que je pouvais assez peu filmer finalement au sein du cabinet où les gens Bon, voilà, c'était... Et donc là, j'avais vraiment deux personnages et du contact. Donc j'ai commencé à filmer. Et elle n'était pas très chaude, en fait, pour que je la filme. Et puis, moi, je filme vraiment comme je vous parle, comme je fais des photos là. Enfin, j'ai la caméra, ça tourne pas. Et puis, quand on a déroché avec son fils, on s'est rendu compte, et la monteuse aussi, il faut quand même dire qu'on a une monteuse sensationnelle, et le producteur qui ont piqué dans les rushs, qui ont regardé des rushs, sans moi, un jour. Et là, la monteuse disait, c'est comme si Béatrice avait été avec nous. Son esprit était là. Dès qu'on prenait dans ces 108 heures, dès qu'on sortait un morceau, c'était formidable. Quoi. C'était formidable, c'était incroyable. Elle était là, alors qu'il y a plein de moments où elle n'est pas là. Et donc, on est parti sur ces basses. On a monté longtemps. Hein. Et avec son fils, qui était quand même dans une position assez étrange, parce que sa mère, tout d'un coup, dont il faisait le deuil, était devenue pratiquement un personnage de fiction, quoi, puisque une fois quand on est au montage, voilà, on fabrique des séquences, on a un point de vue qui est un peu distancié, même très distancié. On essaye d'avoir des séquences qui ont un début, une fin, qui vous permettent de progresser. Et qu'on, voilà. Et puis, on a avancé toujours comme ça, avec la monteuse, et donc petit à petit, on est arrivé à ce que vous avez vu. Moi, j'ai fait de la presse écrite, j'ai fait de la radio avant de faire de la télé. C'est quand même un médium hyper emmerdant, quoi, parce qu'il faut être au bon endroit, au bon moment, avec le matériel qui marche, et avoir le bon angle, et qu'il n'y ait pas de vent, enfin... Alors que quand on est en presse écrite, on voit quelque chose, on vit quelque chose, on peut le retranscrire. On n'a pas de diffuseur. On n'a pas d'argent, pas de budget. On a des moyens techniques, c'est-à-dire c'est moi qui fais la caméra avec un petit micro HF et un micro. Enfin, c'est une modestie absolument totale. Le seul truc, c'est que Béatrice et moi-même habitons à Paris, dans Paris, et pas très loin du bureau. Donc on pouvait aller, partir, faire des trucs, mais il n'y avait aucun cahier des charges, liberté totale, d'autant plus qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, quoi. Donc... Non, on ne pouvait pas avoir encore des contraintes. Pour l'avoir fréquenté quand même pas mal, c'est quand même un personnage à la fois très chaleureux, très secret, très mitterrandien. Je serais bien en peine de faire enfin, je ne devrais pas dire ça, mais de faire un portrait que je pourrais considérer comme complet, quoi. C'est Sapin qui dit ça, Michel Sapin. Qui dit ça pendant l'interview, hein, qui dit, parce que je lui dis, Sapin, monsieur Sapin, vous êtes, je sais pas quoi, normalien, HGC, Sciences Po, Énarque, vous avez jamais pensé à y aller vous-même? Et là, il me répond, vous savez, la dernière marche, c'est quand même la plus haute, et on a gardé évidemment sa réponse, c'est quand même la plus haute, il faut quand même être particulier pour y aller, quoi. Avec Striptease, on tournait aussi bien chez les gens que la crise à Sochaux. C'était aussi bien sur le travail que sur la vie privée, que sur des relations intrafamiliales. Enfin, il y avait un peu de tout. Donc moi, j'étais pas du tout hostile. Moi, j'ai très peu. Alors, c'est bizarre aussi de dire ça, mais sur des vedettes, quoi, sur des gens connus, sur des people, je sais pas comment on pourrait dire. Et c'est quand même. Des mécaniques dont j'avais assez peu d'idées, en fait. Et c'est vrai qu'avec le couple, le couple qui forme avec Julie Gaillet, c'est deux personnes connues. Donc, moi, j'étais un peu comme un chien dans un jeu de quilles avec ça, je sais pas. Et donc, j'aurais bien été, par curiosité, vers là. Et Béatrice a tenu cette ligne-là en disant, non, ce qui nous intéresse, c'est le personnage public et le personnage... Et ce qu'il vit, quoi. Et pour aller chercher ça, c'était pas simple parce qu'il se livre, parce qu'il est secret, quoi. Le décès de Béatrice, donc j'ai pas fini de répondre à votre question précédente, le décès de Béatrice intervient donc en juillet 2022. Et le temps qu'on se. Moi, je me dis, bon, bah voilà, c'est encore un des films, nombreux films sur mes étagères, quoi. Le producteur et la monteuse piquent dans le film à la rentrée vers le mois d'octobre. Et on contacte Félix, le fils Stéphane Hadji, le fils de Béatrice, en Pologne, vers novembre. Tout ça se met en route. Il faut trouver quand même un peu d'argent pour payer la monteuse, pour payer le banc de montage et pour s'y remettre. Et puis voilà, on s'y met au début de l'année, puis on s'interrompt, puis on reprend, puis on s'interrompt, puis on reprend. Enfin, voilà. Et le film est fini finalement avec tous les problèmes techniques, parce qu'il a fallu travailler le son, travailler l'image. Mais le travail, moi, j'ai fait beaucoup de films. J'ai jamais. C'était un régal, quoi. C'était arriver à porter ces images à ce niveau de qualité. Bon, c'est pas pour les vanter, hein, après. On peut les critiquer, mais c'était extraordinaire. Donc tout ça a pris beaucoup de temps. Et l'idée n'est pas vraiment de sortir un mercredi avec des... l'idée, c'est plutôt d'accompagner... Parce que là, en une semaine, la vie du film est terminée, en fait. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le film et de profiter aussi du fait de ce que disait François Hollande. C'est que comme il est disposé à accompagner ses livres, il a l'air disposé à accompagner ce film. Et donc, voilà, ça nous permet d'accompagner la vie de cet objet étrange et de l'amener au public, voilà, accompagné. C'est un peu ce truc de striptease, de dire on fait quelque chose, d'abord on part tourner quelque chose, et puis on tourne autre chose. Ça, j'adore. Je trouve que c'est un peu moins ça qui m'a éloigné. J'ai travaillé dans des agences de presse, où au bout d'un moment j'avais l'impression d'aller filmer, d'aller enregistrer des a priori de rédaction. Et ça, c'était... Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est la liberté de pouvoir se dire, ben, on pensait trouver ça, puis on trouve ça, ben, c'est ça qu'on va trouver. De la même manière, c'est pour ça que je filmais Béatrice et François Hollande avant les interviews, parce que c'était ça, la vérité, aussi. C'est pour ça, aussi, que on a gardé le tutoiement de Béatrice, parce que ça aurait été artificiel de le modifier. Et donc il n'y a pas de commentaire, parce que ce que j'espère, mais ça c'est vous qui allez me le dire, et puis c'est qu'on s'empare du film, et c'est qu'on ne pense pas la même chose de ce qu'on a vu. Enfin moi, on avait reçu à Striptease, quand on faisait l'émission, la lettre de gens qui disaient, nous, tous les jeudis soirs, on regarde en famille, les trois générations, avec mes grands-parents, mes parents et ma sœur, et quand c'est fini, on coupe la télé, et on s'engueule sur ce qu'on a vu. Et on n'a jamais vu la même chose. Pour moi, ça, c'est absolument... Enfin, on a fait du cinéma quand on a fait ça. On a fait quelque chose qui nous dépasse. Moi, c'est pour ça, quand je vous dis cet objet, j'ai besoin de savoir ce que les autres en pensent pour savoir ce que c'est. J'en sais rien, en fait. J'en sais, moi, j'ai tout vu dans tous les sens 25 000 fois. Je ne sais pas ce que c'est, ce film, en vrai.